Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Les ministres français des Affaires étrangères et des Armées sont à Moscou. Aujourd'hui, ils y rencontrent leurs homologues russes dans un double échange qui ne s'était plus produit depuis plusieurs années. Cela intervient après la visite de Vladimir Poutine à Emmanuel Macron au fort de Brégançon au mois d'août. Le président français explique vouloir renforcer les liens entre la France et la Russie malgré les différences de pratiques démocratiques et la méfiance de l'appareil diplomatique français. Il dit aussi vouloir rapprocher la Russie de son côté européen et ne pas la laisser se tourner complètement vers l'Asie. De là à parler d'amitié, il y a sans doute un pas. Le rapprochement avec la Russie, jusqu'où? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Elena Perroux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultante sur les relations entre la France et la Russie, auteur du livre « Un Russe nommé Poutine », c'est aux éditions du Rocher, et vous avez dirigé l'Institut français de Saint-Pétersbourg. Et Cyril Brett, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien professeur de sciences politiques à l'Université de Moscou et vous dirigez le site Eurasia Prospective. Est-ce que vous croyez à ce qu'annonce Emmanuel Macron quand il dit vouloir se rapprocher de la Russie de Vladimir Poutine, ou en tout cas avoir des liens moins distendus? Est-ce que ça vous semble possible, Elena Perroux?
Alors possible, certainement, et souhaitable, certainement aussi. Si on voit ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, c'est tout de même pas tant qu'il y a eu un changement de ton dans la relation franco-russe. Je pense évidemment à l'invitation faite à Vladimir Poutine dès le 29 mai 2017. Ça faisait 15 jours que le président était à l'Élysée.
Au château de Versailles.
Au château de Versailles. Alors c'était un prétexte, hein, l'inauguration d'une exposition consacrée au voyage de Pierre le Grand 300 ans avant. Mais ce qui était très malin de la part du président français, c'était de mettre la grande histoire, de mettre les relations franco-russes sous les auspices de la grande histoire,
dans le temps long,
au-delà des vicissitudes du moment.
Est-ce que Cyril Brett, vous y croyez, vous, à ce... Je ne sais pas si on peut parler de rapprochement, mais en tout cas...
Reprise du dialogue, oui. C'est très important. Pour y croire, d'abord, j'attends de le voir. Et j'attends les... Discuter, c'est bien, mais discuter, pourquoi faire? Et puis, pour arriver à quelle solution? Il y a au moins 5 dossiers sur lesquels la France et la Russie ont des intérêts qui peuvent converger. Et pour le moment, ils sont bloqués. C'est évidemment la Centrafrique, l'Ukraine, l'Iran, la Syrie et l'architecture de sécurité collective en Europe, notamment la maîtrise des armements. Et sur ces 5 dossiers-là, eh bien, on n'est qu'au début du chemin. En ce qui concerne l'Ukraine, eh bien, le conflit persiste et la Crimée a été annexée. En ce qui concerne la Syrie, on est loin d'une solution politique, malheureusement pour les populations civiles, et ainsi de suite, notamment sur l'architecture de sécurité collective en Europe, où de dénonciation de traités en retrait de traités et de réarmement en réarmement, c'est plutôt la tension qui prévaut. Donc l'initiative est bienvenue. Sera-t-elle couronnée de succès? Les réchauffements peuvent également être suivis de refroidissements assez rapides.
Elena Perroux, oui.
Alors, sur la Crimée et l'Ukraine, je voulais juste peut-être rebondir sur ce sujet. Il y a eu tout de même quelque chose de très réjouissant hier, l'échange de prisonniers. Pour la première fois, un geste de bonne volonté de la part de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky, le nouveau président ukrainien. Je rappelle que les deux présidents ne se sont encore pas rencontrés, ils se sont parlé au téléphone, mais l'arrivée de Volodymyr Zelensky est certainement un très bon signal pour une normalisation des relations russo-ukrainiennes. Sur la Crimée, qui est en réalité le gros caillou dans la chaussure des relations franco-russes, puisque c'est à partir de 2014 et de ce que les Russes appellent majoritairement rattachement et tous les autres annexions, qu'il y a ce très gros malentendu. Mais simplement, si vous permettez, étant né à Moscou et ayant un œil russe et un œil français, si je puis vous dire comment les Russes ont vécu cette affaire de la Crimée, il faut relire un ouvrage qui donne des clés de lecture passionnantes pour ce qui est arrivé en 2014, c'est l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier. En 97, cet ouvrage a été écrit à une période où la Russie allait mal. C'était le deuxième mandat de Boris Yeltsin, et la Russie dans les années 90 a traversé une période extrêmement difficile. Eh bien, en 97, Brzezinski écrivait « Pour que les États-Unis continuent à dominer le monde, pour plein de bonnes raisons, entre guillemets, qu'il donne dans cet ouvrage. Il faut que la Russie reste une puissance régionale et pour se faire détacher un certain nombre de pays de sa sphère d'influence, au premier rang desquels l'Ukraine. Et ce qu'il dit sur l'Ukraine, c'est pour ça que je me permets d'insister là-dessus, en 97, il dit il faut que ça se fasse entre 2005 et 2015. Alors vous comprenez que les Russes relisent les événements de la Révolution orange de 2004 et de l'affaire de la Crimée en 2014 avec des yeux peut-être un peu différents de ce que nous voyons nous.
Parce que dans l'esprit des Russes, et on va peut-être faire une petite digression là-dessus, Cyril Brett, la Crimée, c'est en Russie et depuis toujours. Hein, c'est
Krim Nash. La Russie, c'est nous. C'est à nous. C'est la Russie. C'est pas, ça appartient à la Russie, c'est dans la Russie, c'est la Russie. Et tous les forums internationaux, j'étais en Europe de l'Est récemment, sont régis par cette constante. Hein. Alors, la question maintenant, c'est est-ce qu'on pourra avancer en format 2+2 par Li Shoigu, Le Drian, Lavrov sur ce sujet? Je ne pense pas. Si la discussion s'engageait sur la Crimée, qui est rattachée par un pont, qui sera bientôt rattachée par une nouvelle autoroute, qui va être desservie également par des infrastructures d'électricité, la discussion n'irait pas plus loin. Pour les autorités françaises, c'est une question de principe. C'est une question de principe.
De droit international.
Exactement, un principe de droit international. Pour la Russie, c'est une question, ça a été dit très bien, une question symbolique, historique, sentimentale, familiale aussi, de sorte que l'accord ne va pas pouvoir converger, d'autant moins qu'il y a un troisième acteur qui est sans doute le principal, qui est l'Ukraine. Et pour les Ukrainiens, que ce soit officiellement ou que ce soit en off, pour les Ukrainiens, c'est une question de principe. Ils nous testeront, nous les Français, nous les Européens, nous les Allemands, sur notre intransigeance, sur le respect du droit international. Si nous voulons en faire des partenaires, nous ne devons pas transiger sur les questions de la Crimée.
Elena Perrou, je vous laisse conclure sur la Crimée.
Sur la Crimée, c'est un sujet sans fin.
Absolument.
Je voulais juste dire qu'un homme très respecté encore aujourd'hui en Russie, qui est Anatoly Sobchak, le premier maire élu de Saint-Pétersbourg, qui était un grand juriste, et d'ailleurs le père politique, entre guillemets, de Vladimir Poutine, puisque Vladimir Poutine a commencé sa carrière politique, si on peut parler de carrière politique, à la mairie de Saint-Pétersbourg. Eh bien, Anatoly Sobchak disait, quelques temps avant de mourir, il est mort très jeune en 2000, que toutes les frontières des ex-républiques de l'URSS était intangible si on se réfère à l'année 1922, c'est-à-dire l'année de signature de la création de l'URSS. Tout ce qui s'est passé entre 22 et 91 est sujet à discussion, et la Crimée est devenue ukrainienne sur un décret de 8 lignes de Khrouchtchev en 1954.
Est-ce que ça veut dire que la Russie considère que l'Europe et l'Occident et l'OTAN, en fait, sont agressifs militairement, politiquement, depuis 1991, Cyril Brett? Alors, tout ça est-il légitime
dans les documents stratégiques officiels, la posture de défense, la posture stratégique de la Russie, effectivement, Union européenne et OTAN, et plus particulièrement élargissement de l'Union européenne et élargissement de l'OTAN, sont considérés comme des menaces pour la sécurité nationale de la Russie. Si on regarde ces conflits et si on regarde ces discussions avec des yeux russes, c'est effectivement considéré comme une menace. Si maintenant on les regarde d'un point de vue français, si on les regarde d'un point de vue de l'Union européenne, aujourd'hui, le conflit perdure en Ukraine, il faut donc relancer des négociations. Ils ont abouti un premier résultat qui est humanitairement très satisfaisant, on ne peut que s'en réjouir, mais qui politiquement et stratégiquement ne va pas nous emmener très loin, ni sur la Crimée, ni sur le bassin du Don, le Donbass, ni sur le rétablissement de la souveraineté de l'Ukraine sur ses frontières. Et puis il y a tout un ensemble de sujets sur lesquels la France et la Russie ont des divergences d'approche fortes, mais sur lesquels elles ne peuvent pas agir l'une sans l'autre, notamment pour trouver une solution politique à la guerre civile en Syrie.
Elena Perrou, pour continuer sur les dossiers qui fâchent, hein, puisqu'on est parti là-dessus, l'attitude de la Russie par rapport à son influence en Europe, la façon différente de voir les choses, de voir les processus démocratiques en Europe et notamment en France et en Russie, ça pose problème aussi.
Alors ça pose un problème de compréhension certainement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Russes se sentent européens. Qu'ils habitent à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Vladivostok.
Et même à Vladivostok.
Je vais même vous dire en Tchétchénie. C'est très frappant. Il y a une dizaine de jours, l'inauguration d'une immense mosquée, non pas à Grozny, mais dans une autre ville de Tchétchénie. Et dans les communiqués officiels, c'était présenté comme la plus grande mosquée en Europe. Vladimir Poutine a écrit un premier ouvrage qui est une sorte d'autobiographie, si vous voulez. Enfin, il répond en réalité à trois journalistes qui l'interrogent juste avant sa première élection en mars 2000. Et il y a tout un chapitre qui s'intitule « Nous sommes européens ». Et Vladimir Poutine est sans doute le chef d'État le plus européen que la Russie ait connu depuis même les Romanov.
C'est sa formation au KGB en Europe de l'Est qui veut
c'est
ça.
C'est d'une part le fait qu'il soit natif de Saint-Pétersbourg. Mm-hmm. Ça, c'est une subtilité très russe, mais mm-hmm. il faut comprendre que les natifs de Saint-Pétersbourg sont très différents.
C'est la ville européenne russe. Hein, voilà.
C'est la ville européenne russe construite ex nihilo par mm-hmm. des architectes français, mm-hmm. italiens, allemands et russes beaucoup plus tard. Mm-hmm. Ensuite, par sa formation, en effet, vous avez raison. Il a séjourné certes en Allemagne de l'Est, mais c'était l'Ouest par rapport à la Russie.
C'est quand même l'Europe.
Mais c'est tout à fait l'Europe. Et on sait maintenant qu'il a voyagé aussi au-delà de la frontière allemande. Et vous savez, c'est le seul chef d'État qui a connu un peu d'Europe avant d'entrer en fonction, avec Andropov ayant été brièvement ambassadeur en Hongrie.
Vous partagez cette analyse, Cyril Brett. Est-ce qu'il n'est pas inévitable avec le basculement qui s'opère sur le Pacifique que la Russie se tourne un peu vers son côté asiatique?
Il se sent européen, il l'a répété d'ailleurs à la presse française et au président français à Brégançon. Ça ne l'empêche pas de prendre des initiatives de conclusion depuis assez longtemps, de partenariats stratégiques, économiques, avec la Chine, bien sûr. Hein, c'est son pivot vers l'Asie à lui. Et puis, il y a 10 jours, c'était bien le président Erdogan qui était l'invité d'honneur de Vladimir Poutine pour la démonstration des nouveaux armements russes. Vladimir Poutine peut se sentir européen, peut se dire européen. Il a surtout la charge de trouver un remède aux sanctions européennes et aux sanctions américaines. Et la seule façon d'y répondre, c'est de menacer les Européens d'alliance de revers en Chine et de brandir l'épouvantail chinois. Attention, si vous nous laissez dériver, il y aura une grande alliance sino-russe et c'est vers la Chine que nos intérêts, nos alliances militaires se tourneront.
C'est un risque réel, Hélène Apeyrou, ou c'est un jeu de poker menteur, comme le dit Cyril Brett?
Alors, je crois que c'est de la stratégie, enfin, politique, géopolitique, et surtout un grand pragmatisme de la part de Vladimir Poutine.
Il est revenu à l'aigle à deux têtes, en fait.
Alors, c'est-à-dire que c'est pas lui qui est revenu à l'aigle à deux têtes, c'est l'aigle à deux têtes qui est là depuis le 15e siècle. Vous savez, c'est un huitième des terres émergées, la Russie. C'est 11 fuseaux horaires. Et à Vladivostok, vous êtes beaucoup plus près du Japon, et de la Corée du Nord, entre parenthèses, que de Moscou. Et il y a d'ailleurs une initiative extrêmement intéressante qu'il a prise en 2015, mais préparée depuis 2012 et un petit peu avant en réalité, c'est celle du Forum économique de Vladivostok,
il y a quelques jours.
Il vient de recevoir Modi.
Alors, il a reçu Modi, il a reçu le président de Mongolie, il a reçu le premier ministre japonais, qui tous les deux sont là depuis trois éditions. Et son souhait, c'est d'attirer des investisseurs européens, précisément dans cette ville très très loin de Moscou, parce que le grand problème de la Russie, si vous voulez, il y a 4000 kilomètres de frontière avec la Chine. Son premier voyage en Chine date de 2000, donc l'année de son élection. Et il y a un problème très simple, c'est le vide démographique russe et le trop-plein démographique chinois le long de la frontière.
Et les besoins de financement également en Sibérie. Ça n'est pas un épouvantail. Il existe déjà le partenariat stratégique sino-russe. Il existe sur le plan militaire. La Chine compte parmi les deux clients les plus importants du complexe militaro-industriel russe.
Il y a eu des manœuvres très importantes.
Oui,
il y a quelques
constamment.
Mois.
Et ça ne date pas d'hier. Hein. Mm-hmm. Ça date depuis plus de 15 ans et de la fondation de l'Organisation de coopération et de sécurité de Shanghai. C'est valable également sur le plan économique. Le gazoduc Force de Sibérie alimentera l'usine Monde qui est devenue la Chine. Les échanges sont considérables. Avec ce partenariat est toujours surplombé par ce qui a été dit. Le déséquilibre démographique, bien sûr, mais le déséquilibre économique. On est dans un rapport de 1 à 10 entre la richesse russe et la richesse chinoise. De sorte que, pour les Russes eux-mêmes, c'est une solution de remplacement à l'Europe, mais c'est aussi un facteur de risque très important. On sait que le sort réservé aux alliés de la Chine n'est pas toujours enviable.
Je rebondis, Cyril Brett, sur un mot que vous avez prononcé, qui est très important, c'est le mot gaz. Il y a un lien indissoluble entre les Russes et les Européens sur le gaz. Les Européens en ont besoin, et les Russes ont besoin de le vendre, Hélène Apeyrou.
Ah oui, je crois que l'Union Européenne, c'est 30%, c'est ça, de gaz russe.
Davantage, et puis surtout, je vous interromps pas, mais c'est surtout quelque chose d'essentiel, c'est 80% des recettes du budget fédéral.
Mmh. Alors c'est pour l'instant 80% des recettes du budget fédéral, mais et d'où le contrat gazier pharaonique signé avec les Chinois sur 30 ans, je crois, tout de suite après les sanctions occidentales contre la Russie en 2014, après l'affaire de la Crimée. Donc effectivement, ce pivot chinois, Vladimir Poutine en joue évidemment. Mais si vous permettez, il y a un autre pivot dont on va entendre parler dans quelques semaines et de manière très forte, c'est le pivot africain. Car Poutine va réunir à Sochi, à la fin du mois d'octobre, pour la première fois, l'invitation a été lancée à l'ensemble des chefs d'État africains, donc le premier sommet Russie-Afrique. Toujours dans cette idée de ne pas dépendre d'un seul client et de pouvoir exporter autre chose que du gaz et du pétrole, le pivot africain est extrêmement intéressant à observer et c'est évidemment un sujet de friction avec la France. Là, très clairement, la France et la Russie sont rivales sur cet immense continent.
Et tout particulièrement en Centrafrique, mais les auditeurs d'RFI connaissent le sujet
absolument
abondamment.
Oui, c'est un des dossiers sur lesquels d'ailleurs Jean-Yves Le Drian et Emmanuel Macron souhaitent discuter.
Tout à fait, oui. La rivalité est forte. Les Russes reviennent en Afrique et ils reviennent avec un appétit assez important. Ils reviennent notamment en Centrafrique par l'intermédiaire de sociétés de sécurité privée, donc en fait de mercenaires qui ne pourraient pas prendre pied de cette façon-là dans le pays sans au moins le consentement implicite des autorités russes. Hein. C'est pas un faux-né, mais c'est en tout cas des opérateurs qui servent eux aussi les intérêts russes dans le continent, mais qui passent très très largement l'Afrique centrale.
Là, je rebondis sur ces questions de relations de la Russie avec l'Europe, et puis d'ingérence, prononçons le mot, l'affaire Skripal, l'espionnage des communications électroniques. Est-ce que tout ça, on est dans le domaine du normal, Elena Perrou, après tout, voilà. Ou est-ce que ça va un petit peu trop loin? Est-ce que c'est une façon d'établir un rapport de force?
Alors, je me garderai bien de commenter l'affaire Skripal, parce que je ne suis pas sûre que la messe soit dite jusqu'au bout. Enfin, il y a plus de questions que de réponses. Je dirais que... Si vous permettez, les Russes ont découvert une arme un peu tardivement par rapport à d'autres puissances occidentales notamment, c'est la puissance du soft power, qui porte un nom spécifique en français, en russe, pardon, qui se dit la force douce. Merkesila en russe. Et ils l'utilisent par les médias, ils l'utilisent...
Par leurs médias d'influence, qui avait été dénoncé par Emmanuel Macron d'ailleurs à Versailles.
Absolument, mais je crois que depuis les relations se sont réchauffées en tous les cas. Et un certain nombre de faits qui peuvent surprendre de la part des Russes sont à mettre sur le compte de ce soft power récemment découvert et récemment utilisé.
Parmi les obstacles à un rapprochement, il y a ce qu'Emmanuel Macron a appelé l'état profond. Alors on pourrait revenir sur ce terme, hein, c'est un terme très apprécié des complotistes américains. C'est la méfiance de la haute administration du Quai d'Orsay. Qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre, Cyril Brett?
Alors, étant issu de la haute administration, je peux vous dire qu'elle est composite. La haute administration qu'a en tête Emmanuel Macron quand il désigne cette formule, et sont un certain nombre de responsables, pas seulement d'ailleurs au Quai d'Orsay, hein, de hauts fonctionnaires qui sont persuadés que la vocation de la France est plus atlantiste que européiste. Elle se défend, elle se nourrit notamment de la description de la Russie comme une menace vitale pour l'Europe. Mais ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls à conseiller le président. Ils ne sont pas les seuls non plus, d'ailleurs, à s'exprimer ni dans les cénacles administratifs, ni dans les cénacles politiques. On sait, notamment, on l'a vu lors de la dernière campagne présidentielle, que plusieurs responsables politiques, notamment François Fillon, s'étaient déclarés pour une ligne qui était beaucoup plus russophile que celle-là. Là, encore une fois, en ce qui concerne cet état profond, je mets en garde les auditeurs. La haute fonction publique n'est pas un monolithe ayant une seule doctrine et une seule foi.
Il reste 20 secondes, Elena.
Alors, moi qui ai servi le président Chirac pendant 9 ans, je dirais que il y a évidemment des personnalités, dont le président Chirac, qui comprennent ce qu'est la Russie. Mais globalement, nous sommes quand même dans un monde beaucoup plus anglo-saxon, ne serait-ce que si on regarde les programmes d'histoire, de terminale, vous n'avez rien sur la Russie. Vous avez un grand chapitre sur les États-Unis, la Chine, mais la Russie n'existe plus.
Merci, Elena Perrou. Merci, Cyril Brett, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce, à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Fabrice Violet, vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Prochain débat, demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.